Jean Beaufré, dans cette quatrième émission, poursuit son dialogue avec la pensée de Martin Heidegger, dont il fut durant 30 ans l'interlocuteur et l'ami. Il nous explique aujourd'hui ce que Heidegger appelle le non-dit de la philosophie et la nécessité d'une remontée jusqu'à sa source oubliée, remontée qui éclaire et transfigure son parcours. C'est dans cet horizon que Heidegger commencera à poser en 1935 sa question décisive sur la technique dans le monde moderne. Une mise en question qui n'est pas une vitupération contre la technique, mais une méditation pour mieux comprendre sa nature encore impensée et nous permettre d'avoir un rapport plus libre avec elle. Jean Beaufré évoque aussi la parenté intime qui existe entre la philosophie et la poésie. Jean Beaufré, vous écrivez « L'art dont le nom pour Heidegger est la poésie est aussi rigoureux que la pensée la plus attentive. La pensée lui répond à sa guise, mais en même rigueur. L'art est une des cimes de la parole, dont l'autre cime est la pensée. »
Dans la phrase que vous venez de citer, je dis qu'elle n'est pas une nouvelle thèse sur l'être qui s'ajouterait aux thèses métaphysiques qui se sont succédées de Platon à Nietzsche, mais quel serait le non-dit de la métaphysique elle-même. Et en effet, cette locution de non-dit apparaît souvent dans Heidegger, au moins à partir d'une certaine date. Que faut-il donc entendre par un non-dit de la métaphysique? Il ne s'agit évidemment pas d'un non-dit au sens de cet exercice bien connu dans les écoles primaires qui consiste à restituer dans une phrase le mot qui manque. Par exemple, la nourriture du 3 points et grossière mais saine. Et alors, on avait le choix entre différents mots qui étaient mis à part, il fallait remplacer les 3 points par le paysan. Ça donnait la nourriture du paysan et grossière mais saine. En un sens, c'était bien le non-dit de la phrase. On peut dire d'ailleurs, d'une façon générale, sur le plan de la science, eh ben, c'est à cela que se ramène généralement ce qu'on appelle un problème. C'est ce que dit Leibniz. Résoudre le problème, c'est, disait-il dans les nouveaux essais, compléter une proposition dont une partie est laissée en blanc. C'est donc là le type même du problème scientifique. On peut dire en ce sens que le non-dit de la géométrie euclidienne sera, d'après Lobachevsky, que la proposition de la parallèle unique ne dépend pas des autres axiomes, chose que Euclide ne savait pas. De même, on peut dire que le non-dit de la physique pré-relativiste, et là c'est Einstein qui parle, que le non-dit de la physique pré-relativiste est que la vitesse de la lumière ne se compare pas avec les autres vitesses. Donc il s'agit là essentiellement d'un blanc à remplir, autrement dit d'une lacune à combler. Au contraire, quand Heidegger parle du non-dit de la métaphysique, il ne s'agit pas d'un non-dit au sens d'une lacune à combler, d'un blanc à remplir, mais il s'agit d'un non-dit au sens de refus positif de se laisser dire. Ici, le grec nous aiderait mieux à comprendre que le français. En grec, il y a deux négations, la négation « ou » qui constate simplement l'absence de quelque chose, et la négation « mais » qui fait intervenir une défense devant ce qui suit le « mais ». Le non-dit serait donc non pas un « ou légoménon », mais un « mais légoménon », comportant une défense portant sur ce qui pourrait être dit. Par exemple, c'est la dernière parole d'Archimède, lorsqu'il a été tué par un soldat romain pendant qu'il était en train de se démontrer à quelque chose sur une figure qui traçait sur le sable, il a dit au soldat romain « Mimutus cuclus tarasse, ne dérange pas mes cercles ». Défense de déranger mes cercles. Écarte-toi. Ne me gêne pas, ne me trouble pas dans mon travail. Eh bien, le non-dit de Heidegger, c'est un non-dit au sens du mais, de la défensive qu'implique le mais, et non pas simplement de la simple absence que désigne la particule ou. Mais pourquoi ce non-dit ?
Est-ce que cela veut dire aussi que cela n'a pas été pensé ?
Nous ne sommes pas encore là. Expliquons simplement le caractère particulier de non dans la locution non-dit. Pourquoi y a-t-il non-dit ? Non pas parce qu'il y aurait une lacune par rapport à ce qui n'a pas été dit, mais parce que quelque chose refuse positivement, pour ainsi dire, de se laisser dire. Seulement, si la chose en question refuse de se laisser dire, ce n'est pas, dirions-nous, par défaut, mais plutôt par excès. Ce n'est pas parce que ce qui est en question et se trouve barré par la négative ne se montre pas assez, mais parce qu'au contraire, il ne se montre que trop. C'est la phrase d'Aristote dans le livre Petit Alpha de la Métaphysique, à la fin du chapitre 1, « Comme les yeux des nocturnes devant la lumière du soleil, ainsi le regard de notre pensée devant ce qui, par lui-même, est le plus en lumière. » On peut dire que cette phrase d'Aristote est le fil conducteur de Heidegger d'un bout à l'autre de sa recherche de non-dit de la métaphysique. Et c'est là précisément qu'il en appelle au regard phénoménologique, parce que le propre du regard phénoménologique, c'est de faire apparaître ce qui précisément ne se montre pas non par défaut, mais par excès. Zur Sache selbst, droit à la question, disait Husserl, mais, précise Heidegger, en évoquant la même injonction à propos d'une phrase de Kant dans la critique de la raison pure, mais là où, dans le domaine où vaut die Sache selbst, où ce droit vers quoi il faut aller, tief eingehüllt ist, est profondément voilé.
Il est difficile de comprendre qu'un phénomène ne se voit pas parce qu'il est trop riche pour qu'on le voie.
La difficulté de la chose, et non pas en nous, comme le dit Aristote, car quand Aristote écrit la phrase que je viens de citer, « Comme les yeux des nocturnes devant la lumière du soleil, ainsi le regard de notre pensée devant ce qui par lui-même est le plus en lumière », il cherche à interpréter ça comme une difficulté qui serait en nous. Non, dit Heidegger, la difficulté précisément n'est pas du tout en nous, elle est dans la chose même. Et deuxièmement, si elle y est, c'est parce qu'il y a, dans la chose même, comme un refus de se montrer.
Vous parlez du non-dit dans le domaine de la pensée. Vous en avez parlé aussi sur le plan de la science. Mais est-ce qu'il n'y a pas un non-dit en poésie également ?
Ben c'est peut-être là que se manifesterait la plus grande différence entre poésie et pensée, Dichten und Denken. Dans un entretien précédent, nous avions dit la philosophie comme métier de pensée n'est de même niveau qu'avec la poésie. C'est une phrase de Heidegger qui figure dans Introduction à la métaphysique de 1935. Mais il y en est, cette égalité de niveau n'a lieu de part et d'autre, et là Heidegger se réfère à Hölderlin, que sur des monts que disjoignent leurs cimes. Rien ne diffère plus de la poésie que l'exercice de la pensée. non pas, comme le disait Nietzsche, parce que la poésie est encore à caractériser, tenant à la fois de la science et de l'art, peut-être de la religion, mais je crois que le mieux serait de lire ici le texte de Nietzsche auquel je pense. C'est un texte qui fait partie de ce qu'on appelle les écrits de jeunesse de Nietzsche. En effet, il est recueilli dans ce qu'on appelle le livre du philosophe, qui est bien antérieur à Aurore et au Gai Savoir. Eh bien, lisons le texte de Nietzsche auquel je pense. Grand embarras de savoir si la philosophie est un art ou une science. C'est un art dans ses buts et dans sa production. Mais le moyen, das Mittel, à savoir la représentation en concept, elle l'a en commun avec la science. Il s'agit donc, avec la philosophie, d'une forme de poésie. En réalité, on ne peut pas la classer. C'est pourquoi c'est à nous qu'il revient de lui trouver un statut caractéristique. Nietzsche va à la ligne et continue. La description de la nature par le philosophe, il ne connaît qu'à titre de poète et il n'est poète que tandis qu'il connaît. À la ligne, il n'effectue pas de croissance. Je veux dire que la philosophie ne suit pas le même cours que les autres sciences. Même si certains domaines du philosophe passent peu à peu entre les mains de la science. Héraclite, au contraire, ne vieillira jamais. C'est la poésie, hors des bornes de l'expérience, comme prolongement de l'instinct mythique, essentiellement aussi en images, l'exposition mathématique n'appartient pas à l'essence de la philosophie. Dépassement du savoir par les forces formatrices du mythe. Kant est un curieux phénomène, savoir et croyance. Parenté intime entre les philosophes et les fondateurs de religion. Un problème étrange est celui de la décomposition des systèmes philosophiques. Rien n'y correspond du côté de la science et du côté de l'art.